Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaine nouvelle ?
Nouvelle vilaine.
Vilaine nouvelle.
Nouvelle vilaine. Nouvelle vilaine. Vilaine nouvelle. Nouvelle vilaine. Histoire. Eh bien, bonjour. Ah, nous allons retrouver, on descend tous de nos ancêtres, notre grand feuilleton historico-comico-généalogique. Alors, souvenez-vous, Victor, Gévaudan, Petite Pêche à la peau douce, les deux papouses, sont arrivés chez Plat, le père de Victor, et toute cette petite famille fait connaissance et tout le monde est content de tout le monde, sauf Petite Pêche à la peau douce. Petite Pêche à la peau douce est une femme. Est-ce pour cela qu'elle a de la suite dans les idées ? Toujours est-il qu'elle n'en a plus qu'une d'idée. Celle de persuader Victor de retourner vivre parmi les Sioux. Cette vie lui manque. Les grands espaces, le travail... dur mais librement consenti, les fêtes nocturnes. Elle a le mal du pays. Elle s'ennuie dans ce lieu trop bien rangé, dans cette vie ordonnancée, étriquée, mesquine, régie par des lois qui ne sont pas les siennes. Et puis, quand il était chez les Sioux, Victor ne boit pas. Et ça aussi, c'est un argument. Et ses papouses vont-ils, en grandissant dans ce pays, finir par ressembler à ces bourgeois ventripotents qu'elle peut voir chaque jour, alors qu'ils pourraient devenir de grands et fiers guerriers Sioux ? Elle ne laissera pas faire ça. Il faut retourner dans les grandes plaines de l'Ouest. Mais comment va-t-elle procéder pour arriver à ses fins ? C'est exactement la question qu'elle se posait quand Plat arrive dans la cuisine. Oh, il semblait de fort méchante humeur et grommelait entre ses dents, qui, entre parenthèses, aurait supporté une sacrée visite chez le dentiste. « Vous n'avez pas l'air bien joyeux, beau-père, dit-elle d'un ton guilleret.
« Oh, ne m'en parle pas, je n'ai que des ennuis. »«
Oui, quelle sorte d'ennuis ?» Elle minaudait. Oui, avec Plat, elle minaudait toujours. Elle avait remarqué qu'il n'était pas insensible à ses charmes et qu'en procédant de cette manière, elle en obtenait toujours ce qu'elle voulait. Bah, vous remarquerez quand même que cette technique s'est largement répandue depuis auprès de la gente féminine. Bon, enfin, cet aparté est en fait... on reprend.
Oh, bah des ennuis auxquels tu peux rien, ma pauvre fille. Albert, mon homme de confiance, vient de me quitter. Il se marie. Et il veut plus voyager. Et j'ai, moi, justement, un chargement qui doit quitter la France dans une semaine pour les Amériques. Et ça ne peut pas attendre. Alors, tu peux me dire ce que je vais faire, hein ? Je vais quand même pas y aller moi-même.
Ah, vous, non ? Mais Victor, lui, il peut le faire.
Victor ? Oh, pardonne-moi, ma fille, mais Victor n'est qu'un ivrogne. Jamais je pourrais lui faire confiance.
Oh, bah pourtant, quand il a vendu votre premier chargement, vous ne disiez pas la même chose.
Ouais, c'est vrai, il pourrait, s'il buvait pas. Mais il faudrait aussi qu'il soit d'accord.
Oh, ça je m'en charge. N'ayez crainte. Votre problème est résolu. Demain matin, c'est lui qui viendra vous trouver pour vous proposer son aide.
Elle avait vraiment sur d'elle petite pêche à la peau douce. Alors, employait-elle cette vieille et imparable technique qui consiste pour une femme aimante et déterminée à obtenir l'accord de son conjoint, cette technique qui consiste à lui tailler une pipe de rêve et puis, ceci terminé, lui dire à mots plus ou moins couverts « Fais ce que je veux, sinon plus jamais ça. » Ah ça, c'est un mystère. Enfin, toujours est-il qu'elle avait raison. Dès le lendemain matin, Victor demandait à Plat de bien vouloir lui confier cette mission. Victor promettait en outre de ne pas toucher à la moindre boisson alcoolisée pendant le voyage et de ne pas dépenser plus que nécessaire. Plat était aux anges et Petite Pêche à la peau douce préparait déjà les bagages. Comme Gévaudan ne souhaitait pas quitter cette nouvelle vie, il avait décidé de ne pas suivre son frère de sang, n'en déplaise à la coutume. Il faut dire que Plat avait manœuvré dans ce sens, car il souhaitait ne pas se priver des services de la bête, et que celle-ci ne pouvait pas se passer de Gévaudan, son maître. Ah, Géraldine, elle devint encore plus vermillonne qu'à son habitude. Elle avait tremblé à l'idée que son beau peau rouge, comme elle le nommait par-devers elle, puisse choisir de retourner vers la terre de ses ancêtres, et il choisissait de rester. Elle continuerait à le voir chaque jour. Oh, elle s'empama de joie. Quand elle reprit connaissance, la première chose qu'elle vit fut le visage de Gévaudan penché sur elle. Ah, son cœur battit si vite qu'elle s'évanouit à nouveau. Bernadette, elle, était au sans-coup. Il lui fallait trouver d'urgence une nouvelle cuisinière. Et la peste soit de cette sauvage, maugréait-elle. Comme toute belle-mère, elle détestait sa bru. Et le jour de la séparation arriva. Dès l'aube, Victor, Petite Pêche à la peau douce, les papouses, se prépare à partir. Plat, lui, il a fait des frais. Outre leurs 4 chevaux, il avait bien tenté de les persuader que les enfants pouvaient partager le même cheval, mais il a cédé. Outre donc ces 4 chevaux, ils étaient accompagnés d'une mule qui portera leur bagage et que Victor a choisi pour sa ressemblance avec Germaine. Germaine, vous vous souvenez, sa mule, celle du début de cette histoire? Mais enfin, il faudrait voir à cultiver votre mémoire. Mais c'est vraiment fatigant d'être obligé de tout vous rappeler de cette façon. Oh là 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 là. Bien sûr, il n'était pas question pour Gévaudan de laisser son frère de sang partir sans avoir poussé le cri de guerre des Sioux, ni surtout sans s'être livré à une danse censée protéger les voyageurs. Du coup, il portait sa plus belle tenue, toutes ses plumes, ses mocassins de cérémonie, et la démonstration qu'il fit, si elle agaça Plat par sa langueur, laissa Géraldine dans un état proche de la pamoison. Victor, Petite Pêche à la peau douce et les papouses dansèrent à leur tour, ainsi que le veut le cérémonial. Puis ce fut l'heure des au revoir, qui ne manquèrent pas d'être déchirants. Bernadette Vilain, elle, pleurait beaucoup. Elle n'avait toujours pas trouvé de cuisinière. C'est Le voyage jusqu'au point d'embarquement fut fastidieux à souhait. Pas la moindre attaque, pas la moindre bête, pas le moindre contrôle d'identité. Non, la seule distraction fut la lutte que se livrèrent Victor et Petite Pêche à la peau douce. Lui pour cacher quelques bouteilles de boissons euphorisantes, et elle pour les découvrir avant qu'ils ne puissent les vider. C'est tout. L'un dans l'autre, on peut dire que ce n'est pas Victor qui gagna la partie, et que les quelques fois où il sembla triompher, il le regretta amèrement, ça. Toujours est-il qu'ils embarquèrent sans autre péripétie. Ce n'est que à peu près 40 degrés de latitude nord et 50 degrés de longitude ouest qu'il se passa enfin quelque chose. Mais alors, c'était pas n'importe quoi, hein. Pas un incident banal et somme toute mineur. Non, ce fut la catastrophe, la vraie, hein. Pas une tempête, comme on n'en voit qu'une par siècle, ou tout au moins les demi-siècles. Le vent soufflait si fort que les voiles ne résistèrent qu'un très court moment. Le navire ballottait dans tous les sens, gémissait, les amarres se rompant lâchaient les tonneaux et autres marchandises qu'elles retenaient. Les marins, giflés par les vagues, lâchaient prise et se retrouvaient à la mer, flottaient quelques instants avant de disparaître à jamais. La tempête dura toute la nuit, et quand le jour se leva, il ne restait plus trace du bateau à la surface des océans. Pendant ce temps, bien loin de soupçonner ce qui se passait au beau milieu de l'Atlantique, Pla et sa maisonnée se préparaient à un grand événement. Le mariage de Géraldine Villain et de Gévaudan. Pla, avec son air bête et sa vue basse, avait toutefois remarqué l'intérêt de sa fille pour le bel Indien. Ah, il faut dire qu'elle ne le quittait pas d'un pas, son Indien, et que son regard se portait plus souvent qu'il n'est raisonnable sur le renflement prometteur du pantalon de celui-ci. Alors, elle rougissait de plus belle et s'échappait, non sans frôler de ses jupes, l'objet de son désir. Ah, il aurait fallu être aveugle pour ne pas s'apercevoir de ce qui se passait. Pla était avare, mais il n'était pas aveugle. Et forcément, il s'en aperçut donc. Gévaudan, suivant les coutumes indiennes, échangeait de doux regards timides avec Géraldine. Il venait le soir jouer de la flûte sous sa fenêtre, disputant au hibou le silence de la nuit. Mais surtout, il mettait tout en œuvre pour faire sa demande en mariage, à savoir rassembler suffisamment de cadeaux à offrir à la famille de l'élu de son cœur. Il confectionnait des couvertures avec les peaux du produit de ses chasses. Il confectionnait aussi des mocassins, des parures de plumes et de poils. Enfin, tout ce qui, sans conteste, ferait plaisir à n'importe quelle famille sioux. Et quand il fut prêt, il entassa un soir tous ses cadeaux devant la porte de plat et se réfugia dans son tipi pour attendre le verdict de son futur beau-père. Il faut savoir, parce que vous ne le savez peut-être pas, que chez les sioux, c'est ainsi que le prétendant faisait sa demande. Et si les cadeaux avaient disparu au matin, le mariage était accepté, ou bien refusé dans le cas où les cadeaux seraient toujours là. Ce jour-là, le coq n'avait pas fini de pousser son premier cocorico que Gévaudan bondissait hors de son tipi voir le résultat de sa démarche nuptiale. Il se trouve qu'au même moment, Plat franchissait la porte, poussé par une envie de pisser plus qu'urgente.
« Mais qu'est-ce qui m'a foutu, ce tas de saloperies devant ma porte ?»
J'ai vos dents été atterré. Il voit Plat repousser ses cadeaux, les jeter dans tous les sens, les piétiner. Ainsi, sa demande est rejetée. Oh, il en pleurerait. Et du coup, Plat, pendant ce temps-là, compisse largement le reste des présents du pauvre Gévaudan en poussant des soupirs de satisfaction et en grommelant « Oh, sacré postate !»« Ah, quel plaisir !» Quand d'un seul coup, il aperçoit l'Indien qui le regarde hébété.
« Mais qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? T'as jamais vu un homme pisser ?»«
Mes cadeaux !» balbutie le peau rouge.
« Bah quoi, tes cadeaux? Quels cadeaux ?»«
Mais ceux que j'avais placés devant votre porte et que vous ne voulez pas accepter. »
Et là, Gévaudan se met à raconter. Il dit à Plat qu'il souhaite épouser sa fille et il lui conte les coutumes sioux, pourquoi ces cadeaux et ce que Plat aurait dû faire en cas d'acceptation ou en cas de refus. Alors à ce récit, Plat rit de bon cœur, puis frappant paternellement sur l'épaule de son maître chien, il lui dit «
Bon, t'inquiète pas, mon gars, je te la donne, ma fille !»
Et en le regardant dans les yeux, il ajoute
« À partir de maintenant, tu vas travailler avec moi. Je t'apprendrai le métier puisque mon imbécile de fils n'a pas l'air d'en être capable. » Et puis, de toute façon, il faut bien que je trouve à la mariée, la Géraldine.
Ah, il serait bien trop long de narrer tous les épisodes qui précédèrent le mariage de Gévaudan et de Géraldine. Pour avoir le droit de passer devant monsieur le curé et de baiser sa femme, l'Indien, que l'on considérait comme un sauvage, devait subir le baptême. L'en persuader, ça n'a pas été une mince affaire étant donné son aversion de l'élément liquide, aversion acquise dans les circonstances que vous savez. Enfin, dans le cas où, probable, où vous auriez oublié, vous pouvez toujours réécouter les épisodes 3 et 12 de ce feuilleton. Mais toujours est-il qu'il aurait bien évité la baignade, notre Indien. Mais il ne pouvait pas résister aux larmes de Géraldine qui voyait déjà son mariage à l'eau parce que son futur époux ne voulait pas s'y mettre. Il céda donc et subit le supplice de la baignoire avec courage, ainsi que les chaussures trop petites, dont on l'avait assublé pour la cérémonie. Enfin, hormis tous ces détails, tout se passa bien. On lui expliqua qu'à partir de maintenant, il devait porter un nom chrétien, qu'on ne pouvait décidément pas l'enregistrer sous son nom d'Indien, bref, qu'il devait changer de nom.
« Oh, bah ça fait rien, j'ai l'habitude répondit-il.
Bah, il n'éprouvait pas le besoin de leur raconter qu'au cours de cette histoire, il avait déjà changé de nom tellement de fois, 27, 7 fois pour être exact, et qu'il n'allait pas se formaliser pour ça. C'est ainsi qu'il devint Anatole Vilain. Hein ? Ben parce que par commodité, on lui donna le nom de son épouse, contrairement à ce qu'on fait maintenant. Mais là, c'était plus pratique parce qu'on n'allait pas l'appeler Géraldine Gévaudan, parce que son père... Enfin bref, vous comprenez très bien. Et du coup, il resta définitivement Anatole Vilain. Et c'est alors que Plat entreprit de l'éduquer aux affaires. Et pendant ce temps-là, sur la mer calmée sur laquelle ne monte aucune fumée, bombard, oui, c'était le diminutif de bombardeur, bombard rame. C'est sous ce nom que ce marin avait signé un engagement sur la punissante, un fier voilier qui devait le mener jusqu'aux Amériques. Et sous prétexte qu'il n'était pas courageux, qu'il avait une très légère tendance à se planquer au moment où il y avait du boulot, le capitaine l'avait fait mettre dans cette barque et abandonné seul au milieu de l'océan. Et maintenant, il ramait. N'ayant pas la moindre nourriture, il se maintenait en vie grâce au plancton et de l'eau de pluie, ainsi qu'à un peu d'eau de mer. Il notait scrupuleusement les résultats de ses observations à ce sujet, dans les buts que cette étude puisse, par la suite, servir à soigner les naufragés, qu'ils soient volontaires ou non. Il a pris l'habitude du vide, de la solitude, du silence relatif propre à l'océan. Aussi est-il un petit peu étonné quand il s'entend interpeller de la façon suivante. « Pardon, monsieur, iriez-vous en Amérique par hasard ?»«
Oh, j'essaie, » répondit-il.
« C'est que, voyez-vous, ma femme, mes enfants, ainsi que moi-même, sommes en quelque sorte en difficulté. »
Et malgré ce « ah », Bombard n'est pas étonné. Il est rare que les gens qui se maintiennent à la surface de l'eau par 40 degrés de latitude nord et 50 degrés de longitude ouest ne soient pas en difficulté, surtout quand il n'y a aucun navire aux environs.
Et que puis-je faire pour vous, questionne-t-il. Si vous vouliez bien nous emmener jusqu'à New York, nous vous aiderions à ramer.
Dans ce cas, conclut Bombard, en tendant la main à Victor. Et pendant ce temps, Plat désespère. Anatole ne comprend rien au commerce. L'Indien n'a aucune notion de la valeur des choses. Habitué au troc, il est tout à fait capable d'échanger une couverture de laine contre 2 barils de lessive, ce qui n'est pas une affaire quand même. Ce matin encore, lors d'une transaction que Plat lui avait confiée, il a échangé une vache contre un bouton de cuivre qu'il porte maintenant dans les cheveux. Et en plus, il ne comprend même pas que je ne sois pas content, rage Plat. Et il s'en est plaint auprès de Géraldine, hein. « Essaie de le raisonner, ton mari. Il va me mettre sur la paille si ça continue. » Mais Géraldine, elle, se contentait de sourire. Elle était heureuse avec son Indien et elle se fichait pas mal qu'il ne soit pas doué pour les affaires pourvu qu'il ait un bon coup de rein.
« j'aurais mieux fait de te mettre au couvent, lui lança Plat avant de tourner les talons. »
Après 123 jours de mer, Victor, Petite Pêche à la peau douce et leur papouse, débarquèrent de bon matin dans le port de New York. Les formalités douanières n'étant pas à l'époque ce qu'elles sont aujourd'hui, ils abordèrent sans problème. Et c'est là que les choses commencèrent à se gâter. Ayant tout perdu dans le naufrage, il n'avait aucun moyen de survivre dans cette ville où l'argent est roi. Pas le moindre McDo. Oui, c'est une sorte de sandwich typiquement américain. À se mettre sous la dent sans être obligé de passer à la caisse. Et il crevait de faim. Mettez-vous à leur place. 123 jours à se nourrir de plancton. Hein ? C'est pas rien. Non, imaginez ce que a dû être le supplice de Victor et de Petite Pêche à la peau douce, voyant leurs enfants saliver en regardant désespérément les vitrines où trônait cette infecte nourriture. Là, je parle des McDo. Comment résister en voyant ces petits visages amaigris, ces ventres creux, cette avidité de nourriture dans le regard de ses propres enfants ?
après avoir vainement tenté de trouver du travail, de mendier, Victor se résolut à voler. Il leur fallait à tout prix quitter cette ville. Et pour cela, il devait se procurer de quoi survivre jusqu'au moment où, se retrouvant en pleine nature, ils pourraient subvenir à leurs besoins par la chasse. Un minimum de matériel était donc nécessaire, ainsi que des armes et des chevaux, si possible. Victor devait donc réussir un gros coup pour voir ce projet aboutir, et il fallait faire vite. Et il fit sans doute trop vite. Son plan, qui était de détrousser un gros bourgeois qu'il avait repéré la veille, échoua lamentablement. Et il se retrouva entre deux représentants de la loi avant d'échouer sur les bancs d'une des galères de sa gracieuse majesté. Comme quoi, finalement, rappelez-vous le début, eh ben, on n'échappe pas à son destin. C'est... Pendant ce temps-là, petite pêche à la peau douce, livrée à elle-même, pour nourrir ses enfants, n'eut d'autre ressource que de vendre ses charmes. Hélas, elle n'eut pas de chance et contracta très vite une maladie vénérienne mortelle qui la conduisit au tombeau dans les meilleurs délais. Les pauvres papouses survécurent quelque temps avant de tomber sous la coupe d'un chef de gang qui les forçait à voler et les battait quand la recette était trop maigre. L'un des deux jumeaux mourut sous les coups de cette brute et l'autre de désespoir. La triste saga de Victor, dit Pêche-Melba, souvenez-vous, de Petite Pêche à la peau douce, son épouse, et de leur charmant rejeton se termine ici. Hein ? Comme quoi les histoires les plus tristes ne sont pas forcément les plus courtes. Aucun de ces événements ne fut connu de plat, ce qui ne l'empêcha pas de mourir de désespoir. Il voyait son bien s'étioler sous les marchandages intempestivement déficitaires d'Anatole. Et pourtant, il s'obstinait à vouloir former celui-ci aux affaires. Il ne voulait pas reconnaître qu'il avait tort. Pourtant, chaque perte lui arrachait le cœur, mais il s'obstinait, espérant une sorte de miracle. Chaque jour, il confiait un nouveau marché à son gendre, se persuadant que cette fois, ses leçons porteraient leurs fruits. Le coup fatal lui fut porté un jour de mai, où Anatole, prenant au mot le proverbe « En mai, fais ce qu'il te plaît », donna pour rien un troupeau de moutons à un berger qui venait de perdre le sien. Enfin, perdre n'est pas le mot exact. En fait, ce matin-là, la bête, qui s'était un petit peu échappée et avait retrouvé pendant quelques instants une liberté d'instinct, décima le troupeau. Et Anatole trouva tout à fait normal de déménager le pauvre berger, évidemment. En entendant ce récit, Plat émit un « Ah !» assez bizarre, avant de s'écrouler comme une masse, mort. Le repas d'enterrement fut assez loupé parce que Bernadette n'avait toujours pas trouvé de cuisinière. Ah, après la mort de Plat, les choses ne s'arrangèrent pas. Anatole s'obstina à faire des affaires et bien sûr, il ne fit aucun progrès. Chaque affaire étant plus catastrophique que la précédente, il ne fallut pas bien longtemps pour que les finances de la famille soient au plus bas niveau. Bernadette, qui malgré ses recherches n'avait toujours pas trouvé de cuisinière, dut se résoudre à vendre la maison.
Ils s'installèrent dans la forêt proche, dans le tipi d'Anatole qui reprit ses activités de braconnier. Enfin, quand Géraldine lui en laissait le loisir, car la plupart du temps elle voulait le garder près d'elle pour consommer son mariage. Ah bah oui, Géraldine était un tantinet obsédé, hein. Et comme la contraception n'existait pas encore, il en résulta un bébé. Bah oui, rien de bien étonnant à ça, hein, au cas où vous le sauriez pas, quand on... Enfin, bon... Ah là là, vous n'êtes pas passé. En tout cas, la pauvre mourut en couche, et Bernadette, désespérée, ne tarda pas à succomber, sans avoir pu trouver de cuisinière, ce qui ajouta à son désespoir, quand même. Anatole resta seul avec son bébé, qui l'éleva comme il put. Ce qui n'est pas peu dire. Le garçon grandit, il se maria avec une fille de paysan pauvre. Ils furent quelques enfants, dont beaucoup moururent suite à diverses maladies. Anatole, devenu vieux, décida que ça avait assez duré, et un beau jour, il s'éloigna dans la forêt en disant, comme le veut la coutume sioux, « C'est un beau jour pour mourir ». Et se prenant au mot, il se laissa dépérir. On retrouva son corps quelques années après, à la cime d'un arbre, sans comprendre comment il avait pu y grimper. Et de génération en génération, les vilains se perpétuèrent. Beaucoup moururent, mais certains résistèrent. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à mon grand-père, lequel était maître verrier, communiste et libertaire. Oui, je sais, communiste, libertaire, ça peut paraître curieux, n'empêche que c'était comme ça. Je suis donc sioux à la 8e génération, ce qui tendrait quand même à expliquer mon drôle de faciès. Voilà. Voilà, c'est la fin de... On descend tous de nos ancêtres, enfin en tout cas, moi des miens. Cette émission est terminée. Du coup, on va se quitter. Je dis un grand merci à Nico qui rigole derrière sa vitre en toutouillant les boutons. Et à vous, je dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.